Chapitre 6. La bataille des champs du Pélénor. Mais ce n'était ni un chef orc, ni un quelconque brigand qui menait l'assaut contre le Gondor. Les ténèbres se dissipaient trop tôt, avant la date arrêtée par son maître. La fortune le trahissait tout à coup et le monde se retournait contre lui. La victoire lui échappait, alors même qu'il tendait la main pour la saisir. Mais son bras était long. Il commandait toujours, investi de pouvoirs considérables. Roi, spectre de l'anneau, seigneur des Nazgûl, il disposait d'un vaste arsenal. Il s'enfuit de la porte et disparut. Théoden, roi de la Marche, avait atteint la route conduisant de la porte au fleuve et il se tourna vers la cité qui se trouvait alors à moins d'un mille. Il ralentit un peu l'allure, en quête de nouveaux adversaires, et ses chevaliers s'assemblèrent autour de lui. Dernhelm était du nombre. Devant eux, plus près des murs, les hommes d'Elfhelm allaient parmi les engins de siège, taillant, massacrant, poussant leurs ennemis dans les tranchées de feu. Presque toute la moitié nord du Pélénor était sous leur emprise. Les campements brûlaient, les orques fuyaient vers le fleuve comme des troupes d'animaux sauvages, et les Rohirrim allaient et venaient à loisir. Mais ils n'avaient pas encore brisé le siège ni conquis la porte. Leurs ennemis y étaient en nombre, et sur l'autre moitié de la plaine attendaient des armées encore invaincues. Au sud, de l'autre côté de la route, se trouvait le gros des forces des Aladrim, leur cavalerie réunie sous la bannière de leur chef. Celui-ci regarda au loin, et dans la lumière grandissante, il vit l'étendard du roi, fort avancé sur le champ de bataille et sans grande protection autour. Alors, dans sa colère rouge, il cria d'une voix forte, et déployant sa bannière, un serpent noir sur fond écarlate, il se rua à l'encontre du cheval blanc et vert avec un grand concours d'hommes. Et l'éclat des cimetières des Sudrons sortant du fourreau fut comme un scintillement d'étoiles. Théoden eut alors conscience de lui, et refusant d'attendre l'assaut, il cria à Snomana et chargea son ennemi en manière d'accueil. Le choc de leur rencontre fut certes grand, mais la furie blanche des hommes du Nord était la plus ardente, et d'une plus grande adresse était leur chevalerie aux longues lances cruelles. Moins nombreux, ils fendirent néanmoins les rangs des Sudrons comme un éclair dans la forêt. Sur la multitude fondit Théoden, fils de Thengel, et sa lance vola en éclats lorsqu'il démonta leur chef. Son épée jaillit du fourreau. Piquant des éperons, il courut sus à l'étendard, faucha la hampe et le porteur, et le serpent noir tomba. Alors, tous ceux de cette cavalerie qui n'étaient pas encore tombés firent demi-tour et s'enfuirent. Mais voici, au zénith de la gloire du roi, son bouclier d'or s'assombrit soudain. La nouvelle aurore se voila dans le ciel. L'obscurité tomba autour de lui. Les chevaux se cabrèrent et hennirent. Les hommes, jetés à bas de la selle, se traînaient sur le sol.
« À moi ! À moi ! »
s'écria Théoden.
« Debout, Eorlingas ! Ne craignez point de ténèbres !»
Mais Snomana, éperdu de terreur, se dressa au plus haut, luttant contre l'air. Et poussant un grand cri, il s'écrasa sur le flanc, transpercé d'une flèche noire. Le roi tomba sous lui. La grande ombre descendit comme un nuage. Et voyez, c'était une créature ailée, plus grande que tout autre oiseau, si tant est qu'elle en fût un. Et elle était nue, et ni peine ni plume ne portait. Et ses vastes ailes étaient comme des palmures de cuir entre des doigts cornus. Et elle puait. Peut-être était-ce une créature d'un monde plus ancien, rejeton d'une espèce oubliée qui, nichant dans de froides montagnes sous la lune, avait outrepassé son époque et engendré en son air immonde cette ultime et improbable progéniture tout inclinée au mal. Et le Seigneur Sombre l'avait emmenée et nourrie de chairs innommables jusqu'à ce qu'elle surpassât toute autre créature volante, et il l'avait offerte à son serviteur en guise de coursier. Or, elle descendit sur eux, repliant ses ailes digitées avec un croassement. Puis, elle se posa sur le corps de Snomana, enfonçant ses serres et recourbant son long cou dénudé. Sur son dos se tenait une forme enveloppée de noir, vaste et menaçante. Elle portait une couronne d'acier, mais entre le cercle et le manteau ne se voyait rien d'autre qu'un sinistre reflet d'yeux. le seigneur des Nazgûl. Il avait repris les airs, appelant son coursier avant que le ciel ne s'ouvrît. Et voilà qu'il était revenu, semant la ruine, opposant à l'espérance le désespoir, à la victoire la mort. Il brandissait une grande masse d'armes noires. Mais Théoden n'était pas livré entièrement à son sort. Les chevaliers de sa maison gisaient morts autour de lui, ou, dominés par la folie de leur coursier, se trouvaient emportés au loin. Mais l'un d'eux était encore sur pied. Dernhelm le jeune, loyal en dépit de toute peur. Et il pleurait, car il aimait son seigneur comme un père. Tout au long de la charge, Merry s'était tenue derrière lui sans éprouver rien de fâcheux, jusqu'à la venue de l'ombre. Alors, Winfola, dans son épouvante, les avait jetés bas et courait éperdu sur la plaine. Merry rampait à quatre pattes comme une bête égarée, et son horreur était telle qu'il ne voyait plus. Il eut envie de vomir.
« Serviteur du roi, serviteur du roi !»
l'implorait son cœur.
« Tu dois rester près de lui. Vous serez pour moi comme un père, as-tu dit ?»
Mais sa volonté ne répondait pas, et son corps tremblait. Il n'osait pas ouvrir les yeux ni relever la tête. C'est alors que, des ténèbres de son esprit, il crut entendre parler Dernhelm. Mais sa voix lui semblait étrange à présent, et lui rappelait une autre voix qu'il avait connue.
« Arrière, ville d'Wimmerlike, seigneur de la Charogne, laisse les morts en paix !»
Une voix froide répondit.
« Ne t'interpose pas entre le Nazgûl et sa proie, ou il ne te tuera pas à ton tour. Il t'emmènera aux maisons de lamentation, au-delà de toutes ténèbres, où ta chair sera dévorée et ton esprit desséché, mis à nu devant l'œil sans paupières. »
Une lame résonna sortant du fourreau.
« Fais ce que tu veux, mais je ferai tout pour l'entraver si je peux. »«
M'entraver, moi ? Pauvre fou, aucun homme vivant ne le peut. »
Merry perçut alors, de tous les sons entendus en cette heure, le plus étrange. Il semblait que Dernhelm riait, et sa voix claire était comme un tintement d'acier.
« Je suis en vie, mais non un homme. Tu as devant toi une femme. » « Je suis Éowyn, fille d'Éomund. Tu te dresses entre moi et mon seigneur et parents. Va-t'en si tu n'es pas immortel, car vivant ou mort-vivant, je te frapperai si tu le touches. »
La créature ailée cria après elle, mais le spectre de l'anneau ne fit aucune réponse, et il se tint silencieux, comme soudain assailli d'un doute. Pendant un instant, la plus totale stupéfaction eut raison de la peur de Merry. Il ouvrit les yeux et constata que sa vue n'était plus obscurcie. La grande créature était ramassée à quelques pas de lui. Tout semblait noir autour d'elle, et le seigneur des Nazgûl se dressait au-dessus, tel une ombre de désespoir. Un peu à gauche, leur faisant face, se tenait celle qu'il avait appelée Dernhelm. Mais le haume du secret était tombé de son front, et sa claire chevelure, délivrée de ses liens, versait un chatoiement d'or pâle sur ses épaules. Ses yeux d'un gris de mer étaient durs et implacables, pourtant des larmes coulaient sur sa joue. Une épée luisait dans sa main et son bouclier était levé contre l'horreur, des yeux de son ennemi. C'était Éowyn et en même temps Dernhelm, car Merry revit en un éclair le visage qu'il avait remarqué au départ de Dunhart, le visage d'un désespéré partant en quête de la mort. Son cœur s'emplit de pitié, d'émerveillement aussi. Et soudain, s'éveilla en lui le lent courage de son espèce. Il serra le poing. Elle ne devait pas mourir, si belle, si désespérée. Du moins, elle ne mourrait pas seule, sans assistance. La face de leur ennemi n'était pas tournée vers lui, mais il osait à peine bouger, craignant que le regard mortel ne se portât sur lui. Lentement, il se traîna sur le côté. Mais le noir capitaine, son doute et sa malveillance tout entier dirigés vers la femme devant lui, ne fit pas plus attention à lui qu'à un ver rampant dans la boue. Soudain, la grande créature battit de ses horribles ailes qui dégagèrent un vent fétide. D'un bond, elle s'éleva de nouveau dans l'air et, avec un cri strident, se jeta sur Éowyn à grands coups de bec et de serre. Mais toujours Éowyn restait impassible. Fille des Rohirrim, enfant des rois. Mince comme un fil d'épée, belle mais terrible. Elle porta un rapide coup, sûr et mortel. Sa lame trancha le cou tendu, et la tête tomba comme une pierre. D'un bond, elle recula, tandis que l'immense forme périclitait, ses vastes ailes déployées s'écrasant sur la terre. Et lors de sa chute, l'ombre passa. Une lumière descendit sur Éowyn, et ses cheveux brillèrent dans le soleil levant. Au milieu du naufrage, se dressa le cavalier noir, haut et menaçant, bien au-dessus d'elle. Avec un hurlement de haine qui brûlait les oreilles comme du venin, il abattit sa masse. Le bouclier d'Éowyn vola en éclats et son bras fut brisé. Elle tomba à genoux. Comme un nuage, il fondit sur elle et ses yeux étincelèrent. Il leva sa masse pour tuer. Mais soudain, lui aussi tomba en avant avec un cri d'atroce douleur, et son cou dévia de sa cible, se fichant dans le sol. L'épée de Merry l'avait frappé par derrière, déchirant le manteau noir, et, montant sous le haubert, avait percé le tendon derrière son puissant genou.
« Éowyn ! Éowyn !»
cria Merry. Alors, chancelante, elle se releva avec peine, et de ses dernières forces, elle plongea son épée entre la couronne et le manteau, tandis que les grandes épaules se penchaient sur elle. La lame jeta des étincelles et se brisa en maints fragments. La couronne roula sur le sol avec un bruit métallique. Éowyn tomba en avant sur la dépouille de son adversaire. Mais voici, manteau et haubert étaient vides. Ils gisaient sur le sol en une masse informe, chiffonnée et lacérée. Et un cri monta dans l'air frémissant, bientôt réduit à une plainte aiguë, emportée par le vent. Une voix maigre et désincarnée qui, noyée, s'éteignit, pour ne plus jamais être entendu au cours de cet âge du monde. Et voilà que se tenait Meriadoc au milieu des tués, sciant comme un hibou à la lumière du jour, car les larmes l'aveuglaient. Et comme à travers la brume, ses yeux se posèrent sur le beau visage d'Éowyn, gisante et immobile. Et il contempla la figure du roi, tombée en pleine gloire. Car Snomana s'était de nouveau retourné dans son agonie, s'enlevant de son maître, mais il ne fut pas moins sa perte. Merry se pencha alors et souleva sa main pour la baiser. Et voici, Théoden ouvrit les paupières, et ses yeux étaient clairs, et il parla d'une voix douce, quoique laborieuse.
« Adieu, maître Olbitla, » dit-il. « Mon corps est brisé, je vais rejoindre mes pères. Et même en leur auguste compagnie, je n'aurai pas honte à présent. J'ai terrassé le serpent noir. Un matin gris, un jour de grâce et un glorieux couchant. »
Merry, incapable de parler, fondit de nouveau en larmes.
« Pardonnez-moi, sire, » dit-il enfin, « si j'ai enfreint votre commandement sans rien faire pour votre service, sinon pleurer notre séparation. »
Le vieux roi sourit. « Ne vous tourmentez pas, tout est pardonné. Un grand cœur ne se refuse pas. Vivez désormais dans la joie, et quand vous vous assiérez tranquillement avec votre pipe, pensez à moi. Car jamais je ne vais m'asseoir avec vous à Méduzel d'à présent, comme je vous l'avais promis, pour discuter de la science des herbes. »
Il ferma les yeux, et Merry s'inclina près de lui. Le roi reprit au bout d'un moment.
« Ouais, et Homer, car mes yeux s'assombrissent et j'aimerais le voir avant que de partir. Il doit hériter de ma couronne et je voudrais mander à Éowyn. Elle ne voulait pas que je la laisse et maintenant je ne la reverrai plus. Fille bien-aimée, plus chère qu'à un père. »«
Sire, sire, »
commença Merry d'une voix entrecoupée.
« Elle est... »
Mais une vive clameur s'éleva à cet instant. Des cors et des trompettes retentirent de toutes parts. Merry regarda autour de lui, il avait oublié la guerre et tout le reste du monde. Et des heures semblaient s'être écoulées depuis que le roi avait chevauché à sa perte, bien qu'en vérité, cela ne fit qu'un court moment. Mais il vit alors qu'il risquait d'être pris au milieu de la grande bataille qui allait bientôt s'engager. De nouvelles forces de l'ennemi se pressaient sur la route venant du fleuve. Les légions de Morgul faisaient volte-face et se détournaient des murs, Et les hommes de pied du Harad venaient des champs du sud avec un peloton de cavalerie à leur tête, tandis que se dressaient derrière eux les énormes dos des Moumakil surmontés de tours de guerre. Mais au nord, Éomer et son blanc cimier menaient le grand front des Rohirrim, qu'il avait de nouveau rassemblé et ordonné, tandis que la cité se vidait de tous ses hommes. Et le signe d'argent de Dol Amroth était à l'avant-garde, repoussant l'ennemi de la porte. La pensée traversa l'esprit de Merry.
« Où est Gandalf ? N'est-il pas ici ? N'aurait-il pu sauver le roi et Éowyn ?»
Mais Éomer arriva sur ces entrefaites avec ceux des chevaliers de la maison qui n'étaient pas morts et qui, entre-temps, avaient maîtrisé leurs chevaux. Ils posèrent des yeux stupéfaits sur la carcasse de l'horrible bête qui gisait là, et leurs coursiers ne voulurent pas s'approcher. Mais Éomer sauta à bas de sa selle, et la peine et la consternation le submergèrent lorsqu'il s'avança aux côtés du roi et se tint là en silence. Puis l'un des chevaliers saisit la bannière de la main de Gutlaf, le porte-étendard qui gisait mort, et il la souleva. Théoden ouvrit lentement les yeux. Apercevant la bannière, il fit signe de la remettre à Éomer.
« Salut, roi de la marche, » dit-il. « Va maintenant à la victoire. Fais mes adieux à Éowyn. »
Et il mourut ainsi, sans savoir qu'Éowyn gisait auprès de lui. Et ceux qui étaient là pleurèrent, criant « Théoden roi ! Théoden roi !» Mais Éomer leur dit
« N'épuisez pas vos pleurs pour le puissant défunt. Sa fin fut des plus dignes sur son tertre levé. Les femmes pleureront, mais pour l'heure, à la guerre. »
Mais lui-même pleurait en déclamant
« Que ces chevaliers demeurent ici, dit-il, et qu'ils emportent son corps dans l'honneur et le retirent du champ de bataille afin qu'il ne soit piétiné. Oui, et tous les autres de sa garde qui gisent ici. »
Et il regarda les tués, se rappelant leurs noms. Et soudain, il vit sa sœur Éowyn étendue là, et il la reconnut. Il resta bouche bée, comme un homme saisi au milieu d'un cri, transpercé d'une flèche au cœur. Son visage prit une pâleur mortelle, et une colère froide monta en lui, si bien qu'il perdit un moment la parole. Une humeur noire s'empara de lui.
« Éowyn ! Éowyn ! » cria-t-il enfin. « Éowyn, que fais-tu ici ? Quelle folie ou maléfice est-ce là ? La mort, la mort, la mort, la mort nous prenne tous !»
Alors, sans tenir conseil ni attendre l'approche des hommes de la cité, il piqua des deux et se lança à la tête du grand host, sonnant du cor, appelant à l'assaut. Sa voix claire traversa la plaine exhortant.
« À la mort ! Courez ! Courez à la ruine et à la fin du monde !»
Et sur ce, l'armée se mit en branle. Mais les Rohirrim ne chantaient plus.
« À la mort ! »
criait-il d'une seule voix, terrible et forte. Et d'un irrésistible élan, telle une grande marée, leur cavalerie passa en trombe autour du roi tombé et s'en fut tonnant vers le sud. Et Meriadoc le Hobbit demeurait là, sciant au travers de ses larmes, et nul ne lui parlait. En fait, personne ne semblait se soucier de lui. Il essuya ses larmes et se baissa, ramassant le bouclier vert qu'Éowyn lui avait offert, et il le passa derrière son épaule. Puis, il chercha l'épée qui était tombée de sa main. Car au moment de frapper, son bras s'était engourdi, de sorte qu'à présent, il ne pouvait plus se servir que de sa main gauche. Et voyez, son arme gisait au sol, mais la lame fumait comme une branche sèche jetée au feu. Et comme il regardait, elle se tordit et s'émietta et fut consumée. Ainsi finit l'épée des coteaux des Tertres, ouvrage de l'Occidental. Mais il eût été heureux de connaître sa destinée, celui qu'il avait patiemment forgé autant jadis dans le royaume du Nord, quand les Dunedain étaient jeunes, eux dont l'ennemi premier était le terrible royaume d'Angmar et son roi sorcier. Aucune autre lame, fût-elle en de plus puissantes mains, ne lui eût infligé une aussi cuisante blessure, fendant les chairs mortes vivantes, rompant le charme qui soudait ses tendons invisibles à sa volonté. Des hommes soulevèrent alors le roi. Et ayant jeté des manteaux sur des tronçons de lance, ils le portèrent vers la cité sur ce brancard de fortune. et d'autres prirent doucement Éowyn et l'emmenèrent après lui. Mais les hommes de la maison du roi ne pouvaient encore être soustraits du champ de bataille, car 7 de ses chevaliers étaient tombés là, et leur chef, Déorwin, était du nombre. Aussi les étendirent-ils loin de leurs ennemis et de l'horrible bête, et ils plantèrent des lances autour d'eux. Et plus tard, quand tout fut terminé, des hommes revinrent sur les lieux et y allumèrent un grand brasier, et ils brûlèrent la carcasse de la bête. Mais pour Snowmana, ils creusèrent une tombe et érigèrent une pierre sur laquelle était gravée, dans les langues du Gondor et de la Marche, « Fidèle serviteur funeste au cavalier, le preste Snowmana, poulain de pied léger. » L'herbe poussa longue et verte sur le moncelet de Snowmana. Mais la terre où fut brûlée la bête resta à jamais noire et nue.